Tout de suite, en effet, c'est la compagnie des auteurs. Elle est conduite comme chaque jour par Eva Le, Sohan, Vanessa Prévost, Didier Pinault et Corinne Amar. Réalisation Laurence Millet. À la console aujourd'hui, Alexandre Dang.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série consacrée jusqu'à jeudi à Colette 1873-1954. Mais qui était Colette ? Feignait de s'interroger son vieil ami Jean Cocteau. Le plus grand mensonge de l'époque, une vieille danseuse nue de Lesbos Palace, ses ennuis, ses soucis, ses travaux. Eh bien, comme toujours, sans doute tout cela à la fois, ou alors successivement, tout au long de ces multiples réinventions. Comme nous l'avons vu hier, c'était avec Gérard Bonal, au cours de notre émission biographique du lundi. Mais notre exploration ne s'arrête pas là, bien entendu. Jeudi, nous serons en compagnie de Julia Kristeva pour parler du génie féminin et de la jouissance féminine chez l'auteur de Chéri et du blé en herbe. Demain, nous nous demanderons si Colette n'était pas au fond un écrivain moral et moraliste. Nous aborderons également quelques grands motifs de ses romans, comme le traitement que l'on pourrait qualifier de matérialiste du monde et des objets qui entourent Colette. Ce sera avec Jacques Dupont. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, plusieurs sujets au menu de cette émission. Nous parlerons de tous ces domaines de la vie apparemment mineurs qui ont intéressé Colette et dont elle a parlé au fil de ses activités de mémorialiste et aussi de journaliste. Car le journalisme a été tout un pan de son travail. Comme nous l'a rappelé mon invité d'aujourd'hui, Frédéric Magé, universitaire et directeur de la Maison Colette, c'était en 2010. Il publiait à l'époque un recueil de certains des articles choisis de Colette. C'était avec Gérard Bonal, notre invité d'hier. Ce livre est intitulé « Colette, journaliste » et il est au seuil. Beaucoup de textes de Colette ont en effet été écrits pour la presse. Et c'est le cas notamment de 369, publié dans Le Petit Parisien avant sa reprise en volume. 369, c'est un texte dans lequel la romancière raconte ses déménagements et ils ont été nombreux. En voici les premières lignes, elles sont lues par l'auteur.
Seuls peuvent parler du déménagement les sédentaires par goût dont je suis. Encore faut-il qu'ils aient acquis, en dépit d'un fort attachement au lieu qu'ils habitent, l'accoutumance de le quitter. Quand un logis a rendu tout son suc, la simple prudence conseille de le laisser là. C'est un zeste, c'est une écale. Nous risquons d'y devenir nous-mêmes la pulpe, l'amande, et de nous consommer jusqu'à mort comprise. Plutôt repartir et courir l'aventure de rencontrer enfin l'abri qu'on n'épuise point. Tous les périls sont moindres que celui de rester. En foi de quoi, j'ai donc déménagé. Et puis j'ai encore déménagé. Et bien d'autres fois déménagé. Et non pas par caprice, par force, souvent. D'autres fois par hygiène morale. Et si le fonds mobilier pas bien lourd que je traîne, y a gagné des horions et des cicatrices, eh bien tant pis pour lui. Le contact relativement fréquent avec les paniers à livres et à vaisselle, avec la paille qui sent la cave et l'écurie, avec les hommes bardés de la taillole en laine, experts à charger sur leur dos d'une seule prise de catch les bahuts et les buffets, avec leurs casse-croûtes et leurs litres de vin violet. Bref, la connaissance d'une corporation qui manie aussi adroitement l'armoire à glace et le petit bateau en verre vilé me fut profitable.
Bonjour Frédéric Magé.
Bonjour.
Alors on ne compte plus les maisons dans lesquelles Colette a vécu tout au long de sa vie, ce qui lui a valu évidemment nombre de déménagements, comme on l'entendait à l'instant dans 369. Il n'y a pas de sujet trivial au fond pour Colette, et elle peut très bien consacrer un livre à ses déménagements.
Oui, il n'y a que le banal qui me pique et me vivifie, disait-elle. tout dans la vie pouvait requérir l'attention de l'écrivain. Regarde, c'était le maître mot de sa mère, Sido, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, et toute sa vie, elle s'est appliquée à suivre cette leçon, apprendre à regarder patiemment, longuement, passionnément. On ne regarde jamais assez juste, jamais assez passionnément, disait-elle.
Et alors ce livre 369, dans lequel elle a entrepris de se raconter finalement elle-même à travers les lieux où elle a vécu, est-ce que c'est un livre qui vous est particulièrement cher ?
Tous les livres et tous les textes de Colette me sont chers parce que à chaque page on la retrouve. Se raconter, c'est finalement ce qu'elle n'a cessé de faire depuis Claudine à l'école jusqu'à ses dernières œuvres, le Fanal bleu, l'Étoile Vespère ou 369. Finalement, il y a une sorte presque, je dirais, de loi de l'œuvre, hein, qui est l'abandon progressif de la fiction et l'imagination au profit du texte, à la fois de la chronique, hein, suscité par la circonstance, et du récit de soi. Comme si on allait chercher, ou Colette avait cherché toujours dans la littérature, une façon de renaître, de se découvrir, de se reconstruire.
Alors, ce texte 369, elle avait pensé l'appeler autrement. Elle avait pensé l'appeler le décor sans personnage. Ça veut dire quelque chose, ça, pour vous ?
Oui, alors, dans le décor sans personnage, ça veut dire quelque chose, c'est que Colette a toujours été tentée par l'écriture théâtrale. Beaucoup de ses romans, comme Le blé en air, par exemple, ou Chéri, ont d'abord été envisagés par Colette comme des textes de théâtre. Alors, elle écrira pour le théâtre, puisqu'elle va adapter certains de ses textes, elle va même écrire certaines pièces, comme En camarade par exemple, mais c'est quelque chose qui hante l'écriture de Colette, l'écriture théâtrale, et je pense que dans ce texte-là, dans ce titre-là, eh bien, c'est ce qu'il faut rechercher ou trouver, c'est cette tentation toujours chez elle de l'écriture théâtrale, c'est-à-dire de la mise en scène de soi.
Et donc, elle vit elle-même dans un décor qu'elle organise ?
Je ne sais pas si elle vit dans un décor qu'elle organise. Je pense que chez elle, il y a des éléments permanents qui l'ont accompagnée toute sa vie. Elle a toujours aménagé les lieux où elle a vécu différemment pour essayer de reconstituer ce qu'elle a toujours appelé ma province. Finalement, vous parliez de ses déménagements tout à l'heure. Je crois 13 à Paris, sans compter les maisons à la campagne, évidemment, les maisons secondaires. Mais à chaque fois, dit-elle, elle cherchait toujours sa province de Paris, comme si toute sa vie, elle a été hantée par le décor de son enfance et le départ tragique de cette maison à l'âge de 18 ans et qu'elle n'a jamais cessé de rechercher ce lieu. Pensez à l'importance des jardins, par exemple. Hein. On a l'impression que les Monts Boucon à Besançon, que Rosvein en Bretagne, que la Treille Muscate n'ont toujours été choisis qu'en fonction des jardins qui accompagnaient la maison jusqu'à sa dernière demeure, le Palais Royal, ou de ses fenêtres immobilisées sur son irradeau. Elle avait l'impression, ce n'était peut-être qu'une impression, que les jardins n'étaient que pour elle, comme si à chaque fois, ce n'était que des déclinaisons d'un paradis à jamais perdu.
On va revenir sur le Palais Royal parce que c'est vrai que c'est la maison qui est devenue un peu la maison iconique de Colette. On peut dire aussi un mot de toutes ces maisons dont vous avez parlé dans Paris, je t'aime, qui est un petit livre, là aussi de recueil de Colette, publié chez Lerne en 2014. Parce que des adresses, en fait, il y en a tout un tas, y compris à Paris, le 93, puis le 177 bis rue de Courcelles. Ça, c'est avec Willy. Donc ça, c'est les beaux quartiers, par exemple.
Ça correspond à peu près à l'écriture des Claudine et donc au succès, surtout à partir de 1902, quand Claudine va être montée au théâtre avec Polaire dans le rôle titre, ça va être un immense succès. La série des Claudine, c'est le plus gros succès commercial de la Belle Époque. Hein. Succès éditorial, le nombre d'exemplaires vendus, mais aussi tous les produits dérivés, les adaptations qui ont été tirées de ces romans par Willy. Et donc, les Gauthier-Villars vont accéder à une forme de notabilité que représente l'installation, effectivement, rue de Courcelles, avec dans un des deux appartements l'aménagement au dernier étage d'une salle de gymnastique.
Ah oui.
Puisque Colette exerçait son corps, elle se préparait déjà peut-être à sa carrière de mime.
Mais avec Jouvenel aussi, elle vivra dans le 16e arrondissement. Donc vous l'avez dit, d'un côté il y a la Treille Muscate, le Palais Royal, les Monts Boucon, Rosvein. Est-ce que ces changements de décor, parce que c'est un petit peu de ça dont il s'agit, c'est pour Colette une façon sans cesse de se réinventer comme une actrice passe d'un tableau à un autre ?
vraiment, Colette n'a eu de cesse de se renouveler et de se reconstruire. Toute sa vie, vous l'avez un peu évoqué avec Gérard hier, elle n'a cessé de s'essayer dans d'autres rôles. Elle a été effectivement écrivain, elle a été journaliste, elle a été comédienne, elle a été mime, elle a été marchande de produits de beauté, elle a été conférencière. À chaque fois, elle essaye de se trouver, de s'essayer dans des rôles différents. Et dans ses romans, c'est la même chose. Ces personnages, René Néré dans La Vagabonde ou Léa dans Chérie, sont ses doubles de papier, comme si à chaque fois elle s'essayait dans des rôles différents, jusqu'à ce que, je pense, arrive dans son œuvre le personnage de Sido en 1929-1930, où là, elle trouve un double d'elle-même, avec lequel elle va faire corps, jusque dans ses dernières œuvres, Le Fanal Bleu et L'Étoile Vespère, qui sont vraiment deux chefs-d'œuvre, où je crois que Colette atteint là un point de vérité personnelle et de vérité stylistique qu'elle a cherché tout au long de sa vie.
Et donc le dernier décor, Frédéric Magé, on le disait, c'est au Palais Royal. Je vous propose d'entrer dans cet appartement grâce à Jean Cocteau, qui était son voisin et qui nous le décrit. Il s'agit là des dernières années de la vie de Colette.
Un petit pont de bois lui servait d'écritoire.
Jean Cocteau.
Ce pont, elle paraissait couler immobile, comme certains fleuves. Le courant était fait de linge, de châle et de la houle des jambes qu'elle ne savait où mettre pour en moins souffrir. Pendant des jours et des jours, alors que j'avais vu jadis le buste combatif de la comtesse de Noailles lutter contre la mort et jaillir de ses draps pour essayer de la vaincre, j'ai vu Madame Colette couler doucement vers la sienne. Sous ce petit pont sur lequel s'entassait, comme sur le Rialto ou sur l'Arche de Florence, un gracieux désordre. Fruits, fleurs, bouquets de stylographes et montagnes de paperasses où elle se perdait, cherchant en vain ce qu'elle voulait nous montrer, appelant son mari au secours et embrouillant les feuilles bleues sous la lampe bleue qui faisait dire au spectre du Palais Royal « Disparaissons, Colette travaille ».
Alors le Palais Royal, c'était ma province à Paris, hein, vous l'avez dit à l'instant Frédéric Magé, mais enfin, ça n'est pas le joli Palais Royal que nous connaissons aujourd'hui, c'était un endroit plutôt malfamé à l'époque de Colette, c'est peut-être ça qu'elle aimait d'ailleurs.
Je sais pas, elle était probablement attirée par le côté un petit peu canaille, évidemment, du Palais Royal, mais enfin, c'était un côté canaille qui était déjà en passe de disparaître. C'était un endroit assez peu confortable, elle le dirait elle-même, elle a tout expérimenté. Un entresol d'abord, puis le premier étage.
Elle entendait
nord.
Ses voisins, ça l'embêtait
voilà,
beaucoup.
Voilà, les cloisons très très sonores, on entendait l'imprimeur qui était non loin de là, les tremblements, enfin, ce n'était pas très confortable, mais arrivée sur son lit radeau devant sa fenêtre, regardant le jardin et les enfants alors qu'elle est immobilisée par l'arthrose au Palais Royal, elle se sent à la fois effectivement dans Paris, mais à l'écart de Paris. Et toute la description du Palais Royal ressemble à une description d'une province de Paris, puisqu'on a la sociabilité, les gens qui habitent le Palais Royal n'ont pas le même caractère que les autres Parisiens. Il y a des règles entre les habitants du Palais Royal. Oui, vraiment, c'est un petit village dont elle a été pendant de nombreuses années la reine ou l'impératrice.
Alors, Frédéric Magé, nous avions annoncé que nous parlerions de Colette journaliste. Je le disais en introduction, hein, elle a fait différents métiers, dont celui-ci. Elle disait dans L'Étoile Vespère en 1946 que c'était une carrière à perdre le souffle. Et vous avez aimé cette phrase, visiblement, puisque vous l'avez reprise pour la mettre en exergue de votre Colette journaliste à vous.
Oui, alors ça a été pour moi, je suis fasciné par l'activité de Colette. Quand on regarde véritablement par le menu le détail de l'emploi du temps, parce que grâce au travail de Gérard, mais de Claude Pichouet, d'Alain Brunet, dont je salue la mémoire ici, on a une connaissance quasiment quotidienne de la vie de Colette pour certaines années. Imaginez que quand elle entre au journal pour y tenir la chronique dramatique, elle va au théâtre tous les soirs, elle accepte parallèlement de rentrer à la République où elle doit donner un papier tous les jours. Pendant ce temps-là, elle continue à publier ses propres œuvres. Elle doit publier en feuilleton certains de ses romans. Elle fait des conférences. Parfois même, elle monte sur scène pour interpréter son propre rôle. C'est une activité absolument insensée. Et d'ailleurs, sa mère, Sido, l'avait prévenue quand elle a accepté de rentrer au matin. Elle ne dit pas que c'est à couper le souffle, mais elle dit que c'est une carrière qui va stopper sa carrière de romancière, et elle s'oppose, elle tente de s'opposer à cette énième carrière de Colette.
Alors on peut se demander, est-ce que ça a été justement le cas, ou est-ce que au contraire, comme je crois vous semblez le penser, sa carrière d'écrivain, elle inclut tout simplement sa carrière de journaliste?
Ben, je crois que Colette n'est pas la seule. On retrouverait ça chez d'autres écrivaines de la deuxième moitié du XXe siècle, par exemple, comme Duras ou comme Sagan ou comme d'autres. Il y a une continuité, je veux dire, une continuité du regard, il y a une continuité du style. Le génie de Colette, c'est peut-être d'avoir compris qu'il ne fallait justement pas changer, c'est-à-dire de ne pas vouloir singer une pause journalistique. Au contraire, et c'est là, je crois, ce qui fait vraiment la qualité et l'originalité de Colette Journaliste, c'est qu'elle va comprendre très tôt qu'elle peut apporter aux journalistes une note d'originalité, notamment dans l'utilisation, là encore, du regard. Alors ça se produit, elle va en tout cas l'énoncer comme ça, à l'occasion de l'arrestation de la bande à Bonneau. Elle est envoyée par Le Matin pour couvrir l'événement. Une foule est amassée non loin de la grange où elles vont être arrêtées. Enfin, je dis arrêtées, c'est quasiment exécuté puisqu'on met le feu à la grange. Hein. Et comme elle est une femme, eh bien, on refuse qu'elle s'approche des lieux. Tout ce qui a une jupe ne doit pas passer par là, lui dit-on. Et elle, n'importe quel autre journaliste à sa place serait reparti un peu penaud. Bah, pas du tout. Elle se dit, mais je vais justement saisir l'occasion et je vais décrire les mouvements de foule, ce qui se passe, la réaction de la femme, de l'homme ici à gauche. Et le traitement qu'elle fait de l'information est absolument génial. Et effectivement, elle va garder de cette expérience une leçon de vie et d'écriture qu'elle va adapter ensuite pour tous ses autres romans, ne décrire que ce qu'on voit. L'imagination et la mort du reporter, dit-elle à une de ses amies, Renée Hamon, mais je dirais pour elle que l'imagination, c'est la mort du romancier. Elle ne dira d'ailleurs pas tout différemment à Georges Simenon, lorsqu'elle est directrice des Contes des Mille et Un Matins. Simenon, qui est alors un très jeune écrivain, lui envoie ses contes pour être publiés dans les colonnes du Matin. Et il dira bien des années plus tard que Colette lui a donné une leçon qui a décidé de sa carrière, moins de littérature, et ce sera parfait. Et ça, c'est une des leçons qui est une leçon du journalisme que Colette va s'exercer à mettre en pratique en étant journaliste, mais qu'elle va généraliser dans toute son œuvre.
Il faut voir donc, et non inventer, de là à dire qu'elle a vu tout ce qu'elle a mis dans ses romans. Vous iriez jusque-là? Est-ce que, parce qu'il n'y avait pas forcément de démarche documentaire chez Colette, tout est un travail de mémoire, est-ce que, selon vous, elle a vu tout ce qu'elle décrit?
Ah oui, c'est certain. C'est bien d'ailleurs ce qu'on va lui reprocher lorsqu'on lui reproche, les critiques de l'époque lui reprochent l'absence de dimension, je dirais non pas métaphysique, mais enfin un petit peu supérieure, hein, lui reproche d'avoir le nez contre la réalité. Et le fait est que c'est vrai. Et on peut le voir très clairement lorsqu'on étudie la genèse de tous les romans. On retrouve dans les brouillons, dans sa correspondance, dans les articles de presse, tous les éléments qui montrent que ce qu'il y a dans les romans, c'est effectivement des choses qu'elle a exercées, vues dans la réalité.
Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'elle arrive à la sublimer, cette réalité?
Ben, c'est parce qu'elle prend le temps de la regarder. Je crois qu'on mésestime cela. Aujourd'hui, on est dans
les écrivains ne prennent pas assez le temps de regarder?
Ben, peut-être pas aussi longuement et aussi passionnément Colette, et surtout sans aucune forme d'a priori. Je pense par exemple au procès. Lorsqu'elle va couvrir les procès de Landru ou de Moulay-Hassen ou de Jed Weinman, qui sont à chaque fois des monstres, c'est d'ailleurs sous ce titre-là qu'elle va rassembler certains de ses portraits, les monstres. Eh bien, quand vous regardez, c'est absolument extraordinaire. À aucun moment, elle n'émet de jugement moral sur ce qu'elle voit. Et ça lui permet de voir des choses que les autres ne voient pas. Parce que souvent, les gens arrivent devant avec un présupposé, une idée préconçue, déjà un jugement préformé, pas du tout. Et elle, ça lui permet d'être attirée par des détails, souvent des détails physiques, qui donnent à ses portraits et à toutes ses chroniques un sel, une saveur et une force de vérité absolument incroyable. Lorsque vous lisez aujourd'hui le texte de Landru, décrit comme un oiseau à l'œil mort, ou quand vous décrivez, vous voyez Moulay-Hassen qui se transforme en larve sous hypnose dans ses voiles, vous avez l'impression d'y être. On a fait d'ailleurs avec Gérard un essai, je trouve, assez frappant. On a, pour le procès de Moulay-Hassen, qui était donc un procès qui avait lieu au Maroc, elle avait été envoyée par Paris Soir à l'époque, pour couvrir le procès de cette femme qui était une tenancière de bordel et qui avait emmuré et découpé certaines de ses filles, eh bien, on a mis côte à côte le récit du procès par Colette et celui par Maurice Goodkett. Bah, c'est frappant. Vous voyez tout de suite où est le regard, justement, le génie littéraire, et où là, on a simplement un travail de journaliste assez banal.
Allons faire un tour du côté du Palais Royal, celui d'Alain Chamfort cette fois.
Sur la place, c'est pas tout à fait Montréal, mais y a de la neige au Palais Royal. Dis-moi que si même tu hésites encore, regarde le décor. Le soir descend. Et nos regards s'éclairent. L'hiver très tôt allume ses lumières. Et les jardins témoins involontaires d'un amour qui commence à se faire.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de Colette et en particulier de Colette journaliste avec Frédéric Magé. Peut-être pourrait-on revenir à présent un peu chronologiquement sur sa carrière de journaliste, Frédéric Magé. Et dans votre introduction à votre livre Colette journaliste au seuil, vous expliquez qu'au fond cette prédisposition au journalisme, elle ne vient pas par hasard, elle vient déjà de son environnement familial.
Bah oui, il était presque prédestiné au journalisme. D'abord, son oncle Eugène Landois, le frère de Sido, était un journaliste tout à fait éminent, hein, qui a fait une brillante carrière. Son fils Raphaël sera aussi journaliste. Il y a donc beaucoup de presse à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Le capitaine Colette est lui-même abonné à quasiment toutes les revues littéraires et savantes de l'époque. C'est donc une maison à Saint-Sauveur-en-Puisaye qui regorge de revues et de journaux. Colette a toujours vu son père et sa mère en train de lire la presse.
Ce qui lui donne une aura d'ailleurs, parce que le père unijambiste prend son journal et va se mettre dans un coin de la maison, et Colette regarde avec des grands yeux cette espèce de chose mystérieuse finalement se produit sous ses yeux.
Il y a exactement la même chose quand elle sera dans la bibliothèque en train de regarder, assis sur un petit banc de pied, son père qui est en train d'écrire cette œuvre imaginaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Et presque par hasard, justement pas par hasard, elle va épouser un journaliste, Henri Gauthier-Villard alias Willy, et pas n'importe quel journaliste, puisque quand elle épouse, c'est une des plumes les plus célèbres et redoutées à Paris, notamment en raison de ses chroniques musicales qu'il signe sous le nom des Lettres de l'Ouvreuse. Je dis qu'il signe parce qu'on sait qu'il ne les écrit pas. D'ailleurs, la plupart de ces nègres le diront, aucun lecteur ne pouvait y croire, puisque le lendemain, on voyait paraître trois chroniques de trois concerts se passant en même temps. Enfin, je veux dire, c'était pas matériel réellement possible.
Et d'ailleurs, elle va signer d'abord Colette Willy dans ses premières contributions aux journaux.
Elle va d'abord pas signer du tout, j'ai envie de dire. Parce que, j'en parlais tout à l'heure justement, on a découvert, il y a quelques années maintenant en Suisse, un manuscrit d'un article intitulé Zola et Nordau, publié au Mercure de France, je crois en octobre-novembre 1893. On a retrouvé le manuscrit de ce texte, qui fait à peu près 8 pages. 4 pages sont de la main de Colette et 4 pages de la main de Willy. On est là quelques mois à peine après le mariage, au mois de mai 1893. Donc dès le premier mois du mariage, Colette est mise à contribution pour collaborer à l'écriture des articles uniquement signés donc Henri Gauthier-Villard ou L'Ouvreuse ou bien Willy ou un de ses Xème Henri Mauchy, ce pseudonyme. Et ce n'est donc qu'un peu plus tard que son nom va véritablement apparaître. Alors d'abord, on va avoir Eddie dans le journal La Fronde de Marguerite Durand, et puis Colette Willy dans le Gil Blas, où il y aura une quarantaine de textes. Mais là, alors ça, je pense que c'est Willy qui a fait un pied de nez. Au moment où ces textes sont signés Colette, ils ne sont de toute évidence pas écrits par Colette. La plupart de ses chroniques, par les références à la musique wagnérienne, puisque Willy est un des grands défenseurs de la musique de Wagner.
Même un de ses introducteurs en France.
En France, un de ses grands défenseurs avec la musique de Berlioz, eh bien, Colette n'aurait pas pu écrire ses textes. Et donc, par une sorte de pied de nez ou de renversement, il lui fait signer des textes que visiblement il a écrits, alors que probablement, eh bien, il y a beaucoup d'autres articles écrits par lui où la main de Colette y est, mais malheureusement, faute de manuscrit, on ne pourra jamais savoir véritablement où se trouve Colette.
Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que les premiers amours de Colette, que ce soit Willy, bon, après Missy, c'est autre chose, mais le deuxième mari de Colette, c'est aussi un grand rédacteur en chef, c'est aussi un grand journaliste. Et d'ailleurs, ça va correspondre à une deuxième partie de la carrière de journaliste de Colette.
Celui qui va être son deuxième époux, Henri de Jouvenel, est co-rédacteur en chef, rédacteur à chef adjoint, je ne sais pas ce qu'il faut dire, avec Stéphane Lausanne, du Matin, qui est un des quatre grands journaux de l'époque. Il faut imaginer que le Matin, en 1913, tire à 1 million d'exemplaires. Donc c'était vraiment un journal très, très influent. Et elle va y rentrer à la fin de l'année 1910. Alors c'est assez drôle, puisque les premiers articles qu'elle y publie sont signés d'un masque. Parce qu'évidemment, à la tête du journal, on ne voit pas forcément d'un bon œil l'arrivée de cette vagabonde qui s'est produite à moitié nue sur les scènes dans un journal quand même assez conservateur. Alors ça va durer 5 articles, tout le monde la reconnaît, et puis au bout de 5 articles, on fait tomber le masque, parce que de toute façon, il était évident. Et puis, Bruno Varilla, qui était la tête du Matin, était quand même un homme de commerce, il savait très bien quelle partie tirer du scandale.
Enfin, tout de même, ce n'est pas tout à fait un hasard qu'elle lit comme ça l'amour avec la presse. Il y a une fascination chez elle, et d'ailleurs, quand elle parle des salles de rédaction, on le sent très bien.
Elle adore ça. Elle dira, alors bien sûr c'est difficile parce qu'il faut, Maurice Goudkett le racontera, Henri de Jouvenel aussi, il y a le coursier qui attend le matin sur son, on lui offre un café le temps que Madame Colette finisse son texte, c'est vraiment une carrière extrêmement difficile, mais il y a un vrai goût pour ça, le goût des salles de presse. D'ailleurs elle dira après la Première Guerre mondiale qu'elle ne retrouve plus l'ambiance des salles de presse qu'elle a connue au début de sa carrière, mais elle aime ça. Et ça, c'est Claude Pichoy qui disait assez justement, je pense, parce que le rythme et le souffle suscité par la forme brève correspondaient à son rythme intérieur à elle. D'où ce côté très jouissif chez elle de l'écriture journalistique ou de l'écriture publicitaire d'ailleurs.
Et puis la Première Guerre mondiale, ça va être aussi un moment de journalisme pour Colette, un peu moins peut-être qu'avant, parce qu'évidemment, elle est sur le front, elle a rejoint son mari, mais tout de même, elle va prendre conscience d'un certain nombre de choses en faisant du journalisme pendant la Première Guerre mondiale.
C'est la part la plus injustement méconnue de la carrière de Colette journaliste. Je ne connais pas, Françoise Thébault, la grande historienne des femmes pendant la Première Guerre mondiale, ne m'a pas détrompé, d'équivalent d'un auteur, d'un grand auteur de notre littérature, qui ait offert un témoignage aussi précis sur la vie à l'arrière. Parce que, là encore, le talent de Colette, c'est ne décrit que ce que tu vois.
Et
donc, elle, ce qu'elle va décrire, c'est ce qu'elle voit une fois renvoyée à l'arrière, c'est-à-dire la vie des femmes pendant la Première Guerre mondiale, qui attendent les hommes, qui essayent de vivre, de survivre. Elle le dit, il faut célébrer le courage de toutes ces femmes. Et elle suit petit à petit toutes les évolutions qui se créent en l'absence des hommes dans ces milieux presque exclusivement féminins à l'arrière. Elle enregistre tous ces bouleversements. C'est pour ça que quand on dit que Colette a été indifférente à l'histoire et à son temps, moi souvent ça me met en colère parce que c'est une pause. Évidemment, Colette l'a dit, mais c'était une pause. Enfin, Colette a vraiment, dans son œuvre, quand on veut la relire sous cet angle-là, suivi véritablement toutes les modifications, notamment du point de vue des femmes, pendant la première moitié du XXe siècle.
Et ce pan de son journalisme, cette prise de conscience du rôle des femmes, qu'on n'appellera pas évidemment un féminisme, puisque ça ne convient pas à Colette, on le retrouve quand même dans sa littérature, et notamment dans l'évolution du personnage d'Edmé dans Chérie et dans La fin de Chérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela, Frédéric Maget?
Oui, alors évidemment, entre Chérie et La fin de Chérie se passe un événement majeur qui est la Première Guerre mondiale, puisque bien que le roman paraisse en 1920, Chérie, l'action se passe avant la Première Guerre mondiale. En 1926 paraît donc La fin de Chérie, on retrouve le personnage après la Première Guerre mondiale, et là, eh bien, Chérie trouve un monde complètement modifié, notamment du côté des femmes, puisque celle qui est devenue son épouse Edmée, une jeune femme tout à fait effacée, est devenue une femme d'affaires qui boursicote, comme sa mère d'ailleurs, qui a pris amant avec un chirurgien américain, qui porte les cheveux courts, enfin qui est une femme, la garçonne des années folles en fait. Et évidemment, pour lui, il n'arrivera pas en fait à trouver sa place dans ce monde où les femmes ont décidé de prendre leur place, ce qui le conduira à ce geste tragique de la fin de Chéri, puisqu'il termine par se suicider.
Oui, et ça fait penser évidemment au fait que Colette s'est engagée comme infirmière pendant quelques semaines. Pendant la Première Guerre mondiale, elle n'a pas fait que d'observer les choses. Elle aussi, elle a fait comme Edmé, finalement. Elle a pris les choses en main en l'absence des hommes.
Oui, mais alors je dirais qu'elle, elle a commencé dès le départ. Alors, elle n'a pas attendu la Première Guerre mondiale. Hein. « Je veux faire ce que je veux », elle le dit dès 1908. Elle l'a fait toute sa vie. Dès 1906, c'est-à-dire dès le moment où elle quitte Willy, elle comprend une chose qui restera une constante dans sa vie, la liberté de la femme passe par son indépendance financière. Et toute sa vie, elle veillera à ne dépendre financièrement d'aucun homme. D'où d'ailleurs hein, son âpreté au gain. Hein. Il faut voir comment elle négocie ses contrats, aussi bien avec ses éditeurs qu'avec la presse. Lorsque, par exemple, Le Figaro l'engage pour 4 chroniques mensuelles et qu'un jour on lui propose de passer à 2, elle dit « non merci » et elle envoie très poliment, dit-elle, avec renfort de politesse, sa démission.
C'est comme ça qu'on arrive à 1260 articles, et encore, c'est seulement ce qu'on a pu identifier. Elle continuera à écrire comme ça jusqu'à la fin de sa vie, Frédéric Maget ?
Ça va, il va y avoir quand même, il y a des pauses. Hein. En 1923, au moment où elle se sépare d'Henri de Jouvenel, visiblement...
On lui demande de partir aussi du matin.
Oui, je sais pas si on lui demande, mais enfin, en tout cas, elle sent que sa position est quand même devenue à peu près intenable. Et elle va, pendant un temps, abandonner le journalisme. Enfin, quasiment. Hein. Quand on regarde le nombre d'articles qu'elle publie par an, ça devient anecdotique. Et comme par hasard, les années 20, c'est quand même la période, et début des années 30, c'est la grande période des chefs-d'œuvre. Après, elle va reprendre au début des années 30, donc pour Le Journal, pour La République et pour Paris Soir, puisque Jean Prouvot a compris aussi l'intérêt qu'il pouvait avoir à engager Colette, très cher d'ailleurs. Et elle va s'arrêter, il va y avoir une nouvelle pause après l'arrestation de Maurice Goudquette et le risque de sa déportation à Auschwitz, où alors là, elle comprend qu'il va falloir faire attention et à partir de 41-42, elle arrête quasiment.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Frédéric Maget, nous marquons comme chaque jour une pause au mi-temps de cette émission pour accueillir nos amis de la presse littéraire. Et c'est parfois de loin qu'ils viennent nous voir, comme Olivier Meuny qui a pris, alors non pas le drapeau, comme s'appelait le train Bordeaux-Austerlitz à la fin de la vie de Colette, mais bien le TGV Atlantique hein, pour arriver jusqu'ici. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Et vous n'êtes pas très gai en ce début d'année puisque vous avez souhaité consacrer cette chronique à deux romanciers qui viennent de nous quitter.
Oui Mathieu, mais toutefois je m'en voudrais un peu si cette chronique justement venait à altérer le souvenir encore frais et joyeux, du moins je vous le souhaite et je le souhaite à nos auditeurs, de ces fêtes de fin d'année. Toutefois il me paraît impossible de laisser partir Michel Déon et l'Australienne Shirley Hazard sans leur adresser un dernier salut. L'un était depuis au moins près d'un demi-siècle très connu des lecteurs français, je ne vous apprends rien. Du moins, c'est d'ailleurs l'impression un peu fadécieuse, on le verra qu'ils en avaient. L'autre ne l'était guère, hélas, mais tous deux portaient au plus haut, je le crois, l'expression d'un art romanesque parfaitement maîtrisé.
Alors pourquoi pensez-vous que Michel Déon soit en réalité plus méconnu qu'on ne le pense ?
Ce n'est pas tant ça au fond que le fait qu'il puisse être connu pour de mauvaises raisons. Il y a une mythologie Déon, je vous apprends rien. Bien sûr, il y a les hussards, bien sûr, il y a l'académie, bien sûr, il y a Maurras, bien sûr, il y a les voyages et les femmes et les îles, bien sûr, il y a les joies de l'établissement et celle plus grande encore de savoir s'en exempter. Mais au fond, ce ne sont pas, ou pas seulement, ces bonnes et moins bonnes raisons qui rendent son départ si triste. Non, ce que ses lecteurs ont perdu avec lui, c'est un écrivain d'un genre assez particulier dans la France des années 70, où, des poneys sauvages jusqu'au jeune homme vert en passant par le taxi mauve, il publia ses plus grands livres. Et cet écrivain, c'était un romancier. Michel Déon offrit alors à la jeunesse française ce dont elle était volontiers privée, le vent de l'histoire et celui des passions mêlées, le goût des belles aubes et des crépuscules plus splendides encore, une manière de Stendhal pour Trente Glorieuses. Tout cela penchait plutôt à droite, bien sûr, mais Déon avait un sens trop sûr des convenances pour ne pas laisser le soin à son lecteur, s'il le souhaitait, de rétablir l'équilibre, et puis de toutes les façons qu'importaient ces équilibres trop prudents, seul comptait vivre, lire, écrire. Et lui, qui n'accéda vraiment à la reconnaissance qu'après la publication des Poneys Sauvages, qui était, on l'oublie trop souvent, son 18e roman déjà, restera jusqu'au bout. Et paradoxalement, je trouve de plus en plus, à la mesure de la montée du soir, que l'on songe à ces petits chefs-d'œuvre de grâce et de maîtrise que sont Un déjeuner de soleil, Je vous écris d'Italie ou La chambre de ton père, l'un des romanciers les plus accomplis de ce temps. En cela, il se rapproche de Colette, d'ailleurs, qui jusqu'au bout fut parfaitement maîtresse d'elle-même et de son art. En même temps, dans le cas de Déon, et c'est très important, qu'une figure bienveillante de maître et de passeur. Rien de ce qui s'écrit dans le champ de la littérature d'aujourd'hui ne lui était étranger. Ainsi, je vais les citer, Jean Rollin, Emmanuel Carrère, Frédéric Berthet, Brinas Witte et même Michel Houellebecq bénéficièrent-ils de son regard empathique, d'un compagnonnage souvent complice.
Et est-ce que vous pensez que cette curiosité en éveil a amené aussi Michel Déon à lire Shirley Hazard, qui est votre autre deuil, entre guillemets, de cette fin d'année ?
Eh bien, franchement, je ne sais pas, Mathieu. Mais je suis sûr que s'il l'a fait, il aura passionnément aimé cela, ce romanesque bercé, là aussi, par le vent de l'histoire. Shirley Hazard, qui vient de disparaître, vous l'avez dit, à l'âge de 85 ans, est peut-être le secret le mieux gardé du roman contemporain. Seule en France, la maison Gallimard a tenté de le dissiper en publiant ces dernières années trois romans, Le Grand Incendie, Le Passage de Vénus, un absolu chef-d'œuvre, et La Baie de Midi. Né à Sydney en 1931, Shirley Hazard, qui avait aussi la nationalité américaine, mènera une vie de voyage au plus près des convulsions de son siècle. D'abord avec son père, diplomate, qu'elle rejoint à Hiroshima juste après la guerre, à Hong Kong et dans toute l'Asie du Sud-Est, dès l'adolescence. Dès 16 ans d'ailleurs, elle sera embauchée par les services de renseignement britanniques. Ensuite, en sa qualité de secrétaire aux Nations Unies pendant près de 10 ans. Enfin, par la vie qu'elle mena avec son mari, Francis Stigmüller, grand introducteur, entre autres, de l'œuvre de Cocteau aux États-Unis, à Paris d'abord, et surtout en Italie, à Naples, où elle vécut dès les années 50 dans les bases américaines, ou auprès des bases américaines, et à Capri, où elle eut pour voisin et ami celui auquel elle reconnaissait la plus grande influence littéraire avec Henry James, Graham Greene. Son œuvre, l'œuvre de Shirley Hazard, porte bien sûr la trace de cette vie plus grande que la vie, mais vue par le prisme d'un féminisme puissant, pardon, presque woolfien, un peu à la manière en Angleterre d'une Iris Murdoch, et d'un sens très affirmé du mystère, de l'indécision du réel et des passions. En cela, avec peut-être une plus grande force encore, elle rejoint Déon, assurée comme lui que le roman n'est pas une imitation de la vie, mais la vie, un brouillon du roman à venir.
Voilà, Déon et Hazard, des auteurs sans doute à redécouvrir. Merci beaucoup, Olivier Mauny. Et nous poursuivons notre évocation de Colette avec Frédéric Maget, professeur de lettres et auteur de nombreux livres sur cet écrivain aux mille métiers, aux mille intérêts et aux mille gourmandises.
J'ai été très bien élevé. Pour preuve première d'une affirmation aussi catégorique, je dirais que je n'avais pas plus de 3 ans lorsque mon père me donna à boire un plein verre à liqueur d'un vin mordoré envoyé de son midi natal, le muscat de Frontignan. Coup de soleil, choc voluptueux, illumination des papilles neuves. Ce sacre me rendit à jamais digne du vin. Un peu plus tard, j'appris à vider mon gobelet de vin chaud aromatisé de cannelle et de citron en dînant de châtaigne bouillie. À l'âge où on lit à peine, j'éplais, goutte à goutte, des bordeaux rouges anciens et légers, d'éblouissants ichem. Le champagne passa à son tour, murmure d'écume, perles d'air bondissantes, à travers des banquets d'anniversaire et de première communion, il arrosa les truffes grises de la puisée. Bonnes études, d'où je me haussais à l'usage familier et discret du vin, non point avaler goulûment, mais mesuré dans des verres étroits, absorbés, agorgés, espacés, réfléchis.
France Culture, la compagnie des auteurs et cet extrait de Prison et Paradis. interprétée ici par Marie-Ange Dutheil. Alors on le sait, Frédéric Magé, Colette était une gourmande.
Oui, sa gourmandise était proverbiale. Elle s'est vue d'ailleurs sur elle au fur et à mesure des ans. Alors, dans les années 20,
elle se comparait. Très attention, elle avait une salle de sport.
À une tritone. Elle se comparait à une tritone et elle fustigeait les tenantes du régime. Elle les appelait les chevalières de la biscotte, 40 kilos, chapeau et sac à main compris. Non, elle, justement, ça c'est une des grandes constantes de Colette, le goût non seulement des vins et des mets, mais je dirais le goût d'aimer les vins et les mets. Et chez elle, c'était à la fois un art de vivre, puisque effectivement, tous ses contemporains ont constaté sa gourmandise. On parlait tout à l'heure du journalisme. Lorsque Maurice Martin-Dugard venait rencontrer Colette dans son bureau, il la voyait toujours en train de boulotter une boîte de chocolat qui était cachée quelque part, en même temps qu'elle répondait au téléphone et qu'elle écrivait je ne sais quel papier. C'était aussi un art d'écrire, hein, parce que quand on lit les textes de Colette, on en a entendu un extrait de Prison et Paradis à l'instant, on sent qu'il y a une gourmandise du mot pour décrire justement au plus près, le plus justement possible, le goût, l'impression première de ce goût, hein, le mot meilleur que meilleur, disait-elle.
C'est une connaisseuse, alors pour choisir le mot bien entendu, mais également pour choisir le vin et le chocolat.
Oui, alors pour le vin, il faut dire une chose aux auditeurs, c'est que là encore, il faut remonter à Saint-Sauveur, le premier mari de Sido, Jules Robineau Duclos.
Donc la mère de Colette.
Voilà, la mère de Colette était un soifard invétéré.
Oui.
Donc on a retrouvé, à sa mort, l'inventaire. Donc il avait une cave absolument gargantuesque. Mais dans cette cave, il faut savoir qu'il y avait surtout du château Cheval Blanc et du château Yquem. Mmh. Donc c'était quand même un monsieur qui avait une cave assez importante. Et Colette, elle le dit dans ce texte, a terminé les dernières bouteilles de Robineau toute son enfance, et sa mère, dès le plus jeune âge, lui faisait goûter par petits godets, et elle va devenir ainsi une formidable, je ne sais pas s'il faut dire ça, en tout cas, sommelière, je ne sais pas, mais en tout cas, elle avait une vraie connaissance des vins. Henri Béraud dira d'ailleurs qu'elle pouvait égaler n'importe quel sommelier d'un grand restaurant, elle était capable de reconnaître à peu près n'importe quel cru. Et elle avait vraiment le goût de ça. Hein. Bernard Pivot a dit qu'avec Baudelaire, Colette était l'auteur qui avait le mieux parlé du vin.
Du coup, c'est vrai que quand on l'entend parler comme ça de vin, on ne s'étonne pas qu'elle ait fait la promotion des vins Nicolas, puisqu'il se trouve que Colette, nouveau métier de Colette, a exercé dans la publicité.
Oui, et ben, ça elle le doit à Willy. Il faut dire qu'elle a expérimenté avec Willy l'ancêtre quasiment du marketing littéraire. Hein. Parce que Willy, avec les Claudines, a fait tout ce qu'il était possible pour engranger le maximum d'argent avec le succès éditorial, des glaces, des cigarettes, le célèbre col Claudine, bien sûr, des adaptations au théâtre, des adaptations en forme de comédie musicale ou d'opérette, comme on l'appelait à l'époque. Et elle va comprendre très vite que finalement, l'écrivain est à l'égal du comédien une personnalité médiatique et que son nom peut effectivement intéresser des marques. Alors ça va surtout se produire pendant l'entre-deux-guerres, elle n'est pas la seule, hein. Jean Cocteau, même des gens comme Paul Valéry ou Francis Carco vont s'essayer à la publicité, je pense à Perrier par exemple, hein. Et à ce moment-là, pendant l'entre-deux-guerres, la presse s'intéresse beaucoup à Colette, principalement comme celle qui sait parler aux femmes. C'est notamment le moment où la presse féminine, Vogue, Femina, Marie-Claire vont s'intéresser beaucoup à Colette et vont l'engager comme contributrice régulière. Et les marques, notamment les marques de mode, vont justement comprendre tout l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir la personnalité et la plume de Colette au service de leur marque. Alors des marques
Hermès,
extrêmement
hein, par exemple.
Hermès, un des dirigeants d'Hermès me disait il y a quelques mois qu'on utilisait encore une des phrases de son article de presse dans les ateliers, l'envers vaut l'endroit. Chez Hermès, l'envers vaut l'endroit.
Mais il n'y a pas que Hermès, hein. Il y a aussi des choses plus étonnantes, par exemple Ford.
Il y a Ford, les cigarettes Lucky Strike, l'électroménager Philips. Alors après, vous avez des parfums, vous avez des maisons de couture, bien évidemment, des fabricants de cure-dents, des fabricants de mannequins pour la mode. Vous avez beaucoup de marques extrêmement différentes. Vous avez du café, vous avez les vins Nicolas, vous avez certains producteurs de vin de Bourgogne. Enfin, elle n'a pas ménagé son temps et son énergie au service de la publicité. Elle est probablement, à cette époque-là, un des auteurs qui publie le plus pour la publicité. Elle va même recevoir un prix en récompense, le prix de l'écrivain publicitaire. Elle va recevoir ce prix pour un article qu'elle avait publié pour les Soirées du Charme.
Mais est-ce qu'on la laisse libre? Parce que l'art publicitaire de Colette, c'est un art avant tout subjectif. Et peut-être n'a-t-elle pas envie de négocier avec Lucky Strike sur ce qu'elle doit écrire. Comment ça se passe?
Ça, on a du mal à le savoir parce que du coup, il nous manquerait les archives pour vraiment connaître comment se passe cette transaction. Je pense que Colette se pliait tout à fait aux demandes qui lui étaient formulées. Il faut dire aussi que l'art publicitaire de cette époque-là n'avait rien à voir avec l'art publicitaire d'aujourd'hui. On laissait le temps, on laissait la place. Quand vous prenez, par exemple, l'article qu'elle a écrit pour les montres Tavannes, des montres suisses, l'article, il fait 3 pages. Enfin, c'est plus de la publicité comme on le ferait évidemment aujourd'hui. Et elle va en éprouver vraiment un grand plaisir et une grande satisfaction.
Et les auditeurs qui souhaitent en savoir plus peuvent se référer toujours aux éditions de Lerne, à l'ouvrage que vous y avez publié en 2014 sur ce thème. Vous rassemblez les plaquettes publicitaires, les slogans, les affiches et les encarts de presse de Colette. Ça s'appelle « Le second métier de l'écrivain ».
C'était le slogan qu'elle avait inventé pour lancer son magasin de produits de beauté.
Alors, Frédéric Magé, on vient de fêter Noël, ça ne vous a pas échappé, ça n'avait pas échappé non plus à Olivier Mauny. Et Colette, eh ben, elle aimait bien cette période de l'année, Noël et le Nouvel An.
Alors, elle aimait bien cette période de l'année, mais elle n'aimait pas vraiment Noël. Il faut savoir que sa mère, Sido, là encore, avait rapporté de son éducation à Bruxelles, dans un milieu très proche des milieux encore saint-simoniens, des idées très avancées, en particulier un athéisme plus qu'au bon enfant, parce qu'elle emmenait son chien aboyer à la messe pour embêter le curé pendant l'élévation, oui. et lisait les œuvres de Corneille cachées derrière son missel. Et elle va transmettre à sa fille cette défiance, et donc Colette va être élevée dans une famille où on ne fête pas du tout Noël. Il n'y a pas d'arbre de Noël, on ne donne pas de cadeaux à Noël. En revanche, on célèbre le Nouvel An. Et Colette a une véritable fascination pour le Nouvel An. Il y a de très 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 beaux textes qui sont consacrés justement à ce premier jour de l'année, qui vont l'accompagner quasiment pendant toute sa carrière, à chaque fois qui la ramène justement à cette période de l'enfance. Alors, ce goût pour le premier de l'an, ça rejoint chez Colette le goût du cercle et de la courbe. Colette, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, ça, le temps cyclique, le temps qui se répète, la forme de la sphère, de la courbe.
L'année est un ruban.
Voilà, c'est ça. Tendre vers l'achevé, c'est revenir vers son point de départ.
Elle aimait les éclosions, Colette, et le premier de l'an, c'est l'éclosion de l'année.
C'est ça aussi, et c'est un des grands thèmes de l'œuvre qui va là encore apparaître à Saint-Sauveur-en-Puisaye et qui va constituer la matière du dernier texte publié par Colette en 1954. Au moment de la projection du blé en herbe, Colette est alors immobilisée par l'arthrite au Palais Royal, ne peut pas se rendre à une projection qui est donnée pour des étudiants. Elle enregistre donc un message. Et le texte qu'elle écrit, le dernier texte, une sorte de testament littéraire, presque j'ai envie de dire, où elle dit que finalement, toute sa vie, elle n'aura cessé de se pencher sur les éclosions qui constituent, dit-elle, le drame essentiel, mieux que la mort qui est une banale défaite. Le jour m'est nouveau chaque jour. Découverte, tout n'est que découverte et je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre.
Mais en quoi c'est un drame, l'éclosion ?
Colette l'a bien formulé au moment où elle avait assisté à un film qui était un film documentaire où on voyait une germination au ralenti. Et elle prend à la main de Maurice Gutkel à ce moment-là, elle lui dit « Maurice, il n'y a qu'une bête ». Cette continuité du vivant chez Colette est quelque chose de fondamental et notamment l'éclosion qui, pour elle, est une forme de drame, d'expérience extrêmement difficile, aussi bien chez les plantes, les animaux, que surtout chez les êtres humains, d'où sa fascination pour les personnages d'adolescents qui quittent justement le monde de l'enfance pour affronter le monde des adultes. On voit ça aussi bien dans Le blé en herbe que dans un de ses chefs-d'œuvre, La chatte, où finalement l'enjeu de ce roman, c'est le personnage d'Alain qui refuse de quitter l'univers de l'enfance, symbolisé dans le roman par la chatte, qui entretient et qui protège l'univers de l'enfance d'Alain.
Et c'est peut-être pour ça qu'elle sera amoureuse aussi de Bertrand de Jouvenel, le fils de son mari.
Je ne sais pas.
Pour observer son éclosion et même pour le
pour
faire
encourager son éclosion, vous voulez dire. Je crois qu'il faut se méfier dans cette histoire du regard ou du propos un petit peu goguenard qu'on aurait envie d'avoir. Je crois que Colette a profondément aimé Bertrand Jouvenel. Ça a peut-être été effectivement au départ une aventure sensuelle, mais l'histoire d'amour entre Colette et Bertrand Jouvenel a été profonde et extrêmement douloureuse, je pense, pour Colette. Il y a cette très jolie anecdote au moment où comme dans Chéri, finalement, bien que Chéri ait lieu avant l'expérience, eh bien, elle accepte de laisser partir Bertrand Jouvenel pour aller se marier et faire sa vie, comme on dit. Elle lâche, après leur dernière nuit d'amour, un petit papier du haut de son balcon qui tombe et Bertrand de Jouvenel le ramasse. Il avait juste écrit « Je t'aime ». Je pense qu'elle ne l'a pas dit si souvent dans sa vie.
Je voudrais qu'on termine cette émission. Il nous reste quelques minutes en parlant un peu des animaux.
Les animaux, il est rare que je les oublie. Il ne mérite pas à jamais d'être oublié. C'était un fort, beau, confortable et énorme crapaud. Ce n'était peut-être pas lui qui chantait, mais il était là tout le temps. Je ne l'ai pas vu chanter. Et je ne sais pas si c'était lui qui chantait. J'ai gratté la tête. Les crapauds aiment qu'on leur gratte la tête. C'est une chose, c'est un détail qui a son importance, mais que l'être humain ignore vraiment trop souvent. Le hérisson que j'ai pu garder, il a eu une fin heureuse. Il est mort d'indigestion. Il avait mangé trop de gigots froids. Les écureuils étaient nombreux. Ils venaient regarder, manger, nous regarder manger et réclamer leur part, comme tous les écureuils du monde, comme ceux qui sont en Amérique et qui sont si familiers.
Colette, dans une archive de 1950, c'est vraiment formidable quand elle parle des animaux. Moi j'adore Frédéric Magé.
Moi aussi j'adore.
Il y a une idylle qui est bien connue entre Colette et les animaux.
C'est un thème central de l'œuvre. Le premier texte qu'elle publie sous son nom, ce sont les dialogues de bêtes en 1904. Et les bêtes vont l'accompagner comme cela tout au long de sa vie, jusque dans ses dernières années. Alors vous avez cité un des plus beaux recueils de Colette consacrés aux animaux, prison et paradis. Il faudrait citer évidemment La Chatte aussi en 1933. Mais on retrouve cette fascination jusque dans les derniers romans, jusque dans les derniers ouvrages, jusque dans L'Étoile Vespère. On l'avait considéré, de son vivant, on considérait Colette comme un des principaux représentants de la littérature animalière avec Louis Pergaud. Mais je pense qu'on se trompait. Parce que chez Colette, ce qui la fascine chez les animaux, ce ne sont pas forcément les animaux en tant que tels. Je le disais tout à l'heure,
c'est l'éclosion aussi, c'est l'animalité, c'est la nature.
Non, c'est une part peut-être plus sombre. Il n'y a qu'une bête, dit Colette. Il n'y a pas de différence à ses yeux entre l'animal, le végétal et l'humain. Sauf que les bêtes ont gardé à ses yeux un contact avec quelque chose de premier, d'antérieur à la culture, d'indicible, de mystérieux, d'angoissant, où finalement le bien et le mal sont indiscernables. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a toujours accordé sa préférence aux bêtes, et même qu'il y a entre elles et eux une forme de connivence. D'où d'ailleurs, dit-elle assez joliment, quand je revenais de cette conversation silencieuse avec les bêtes, on me trouvait toujours un regard assez effrayant et je lisais dans la presse cette question d'un journaliste, « Madame Colette a-t-elle une âme ?» Il y a dans sa façon de percevoir le monde animalier une absence totale de niaiserie. Colette d'ailleurs, les contemporains le disent, elle ne parlait pas du tout sucre avec ses animaux. Elle leur parlait normalement, elle les vouvoyait. Et il y avait une forme de sympathie immédiate entre Colette et les animaux. J'ai vu, il y avait l'exposition consacrée non pas José Maria Sert, mais à Missia Sert, au musée d'Orsay, il n'y a pas si longtemps que ça. L'exposition se terminait sur une archive vidéo que j'avais jamais vue, qui était aux États-Unis. On voyait Missia et Colette qui étaient à côté d'un singe. La façon dont Colette se met à genoux au niveau de l'animal et tente de l'appréhender, le lien qui se crée avec l'animal est absolument saisissant. Et vous retrouvez ça dans l'œuvre de Colette. Mais finalement, cette question de l'animalité, de la sauvagerie, de ce qu'elle appelait la pureté, vous la retrouvez partout dans son œuvre. Lorsqu'elle décrit les êtres humains, elle les compare souvent à des animaux. Lorsqu'elle décrit des plantes, elle les compare à des êtres humains. Il y a une métaphore un peu généralisée ici. Et il y a chez elle une volonté d'essayer de capter une part indicible, finalement, cette forme de pureté, ce qu'elle appelait, oui, cette forme d'impureté, c'est-à-dire ce contact avec un temps d'avant la culture.
Et puis en 5 secondes, je voudrais quand même citer cette phrase de Colette, « Il n'y a pas de chat ordinaire ».
Il n'y a pas d'écrivain ordinaire non plus, en tout cas pas de véritable écrivain.
Un grand merci à vous Frédéric Magé. Votre livre Colette Journaliste, qui regroupe donc des chroniques et des reportages de Colette, est disponible aux éditions du Seuil, mais aussi chez Libretto. Vous avez également édité et présenté de nombreux textes de Colette aux éditions de Lerne, on en a parlé, notamment Le Cahier de Lerne Colette, en collaboration avec Gérard Magé. Toujours disponible tout cela, bien entendu, sur notre site. Tout de suite sur France Culture, c'est la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, un peu de temps passé à la poésie de la négritude en écoutant Léon Gontran Damas dans Black Label, qui est un très long poème, un poème logoré dans lequel on s'introduit en saisissant Black Label à boire pour ne pas changer, Black Label à boire, à quoi bon changer. J'ai saoulé ma peine ce soir comme hier, comme tant et tant d'autres soirs passés, ou de bouge en bouge, ou de bar en bar, ou de verre en verre. J'ai saoulé ma peine, mort au cancre, au pouls, mort au chancre, au fou, et sus au dévoyé, ont encore hurlé, ceux qui nombreux disent tous m'avoir à l'œil, me regarder vivre, et ceux, parlons-en, qui vagissent de rage et de honte, de naître aux Antilles, de naître en Guyane, de naître partout ailleurs qu'en bordure de la Seine ou du Rhône, ou de la Tamise, du Danube ou du Rhin, ou de la Volga, ceux qui naissent, ceux qui grandissent dans l'erreur, ceux qui poussent sur l'erreur, ceux qui meurent comme ils sont nés, fils de sages, fils de chiens, ceux qui se refusent une âme, ceux qui se méprisent, ceux qui n'ont pour eux-mêmes et leurs proches que honte et lâcheté, ceux qui renoncent une pleine vie d'homme, d'être autre chose qu'ombre d'ombre, ceux qui se renient, se surveillent, se désespèrent et se lamentent, ceux qui s'en prennent eux-mêmes aux cheveux de ne point onduler, sous la brise embaumée, comme épis de blé d'or des pays tempérés qu'inventent les livres, ceux qui, voulant à leur nez qu'écrase tout le poids du ciel, une forme moins plate se le masse, le remasse au coucher, à la graisse de bœuf du Brésil, de Dominicanie, de Porto Rico, du Venezuela, ceux qui croient pouvoir s'amincir les lèvres à se les mordre jusqu'au sang, à longueur de journée, ceux qui se traite même de sauvage, sale nègre, Subaru, Boamitan, Gros Siro, Guinin, Congo, Mondong, Fandang, Nang, ceux dont les chines veulent et le dos bastonné et la fesse beauté, ceux dont l'attitude immuable d'esclave insulte à la sagesse antique et belle de leurs propres anciens, ceux à qui la merveilleuse inconscience fait zézayer de père en fils, de fils en père, zié béqué brilé, zié nègre, il est dit que le blanc aura toujours le nègre à l'œil. Ceux qui permirent le déracinement de 250 millions des leurs, ceux qui ordonnèrent les razzias, ceux qui obéirent à l'ordre de razzia, ceux qui dépistèrent les radiers, ceux dont les pères vendirent les fils à l'encan et les fils à leur tour la terre-mère, ceux dont les frères donnèrent si gentiment la chasse à leurs frères, ceux qui se laissèrent prendre à ce jeu de famille, ceux capturés vifs et qui s'en réjouissant se dirent en eux-mêmes « Mieux vaut être chair rouge que gibier mort », ceux qui ne virent dans la mort le salut de la vie, ceux qui s'en allèrent bien dociles à la file, le coup pris au carcan Mayombe, ceux dont la douceur, l'hébétude, l'inconscience et la passivité n'avaient d'égal que l'arrogance, la sottise, la faconde, la vanité crépue, des datchis ouvrant la marche, des datchis fermant la marche au rivage, ceux qui parvinrent exténués mais vivants au rivage, avant que d'avoir acquitté à jamais voile au vent les rives du Congo, du Gabon, du Bénin, de Guinée, de Gambie, de Gorée, ceux qui ne s'étonnèrent de rien de voir un navire au large, ceux dont les ancêtres étampés, fleurdelisés, marqués de fer rouge, aux lettres du navire au large, puis parqués, enchaînés, rivés, cadenassés et calés, furent bel et bien du voyage sans air, sans eau, sans fin.
Voilà, Jacques Bonafé, bientôt 16h sur France Culture et dans quelques instants, vous allez retrouver Nicolas Martin pour la méthode scientifique. Très bon après-midi à toutes et à tous.